Allô?
Ouais, Salomé, j'ai une idée pour sororité.
Ah ouais, c'est quoi?
Bah en fait, on pourrait parler de...
L'écoféminisme.
Et j'ai lu un livre sur l'écoféminisme dernièrement, je sais pas si tu connais.
Alors j'en ai lu un, mais je sais pas, c'est théorie et pratique.
Ouais, c'est être écoféministe et théorie et pratique de Jeanne Burgard-Goutal. Son nom n'est pas facile à dire.
Oui, oui, bah je vois. Et du coup, ouais, on avait déjà parlé de l'écoféminisme, et je vais enfoncer une porte ouverte, mais tu sais, c'est la contraction entre écologie et féminisme. J'aime bien dire des trucs évidents comme ça. Et en fait, l'idée derrière le terme, c'est de combiner en fait deux combats, donc pour le féminisme et pour l'écologie, et pour gagner en efficacité et interroger le lien entre l'oppression des femmes et la destruction de la nature, en partant du principe... qu'elles sont issues d'un même système qui est patriarcal et capitaliste, et c'est le même système de destruction, en fait, l'une que l'autre. Et l'objectif, ce serait une refonte totale du système patriarcal et capitaliste, ce dont on rêve tous, et en incluant les femmes dans la prise de décision pour essayer, en tout cas, d'éviter l'effondrement. Et ce serait peut-être pas mal d'inclure les femmes dans les prises de décision, parce que c'est quand même la moitié de la population.
Les femmes et pas que d'ailleurs, parce qu'en fait, l'écoféminisme aussi, ça découle de la compréhension de l'imbrication en fait de tous les systèmes d'oppression qui se renforcent mutuellement. Donc, notamment, oui, le racisme, le classisme, le sexisme, mais aussi en fait des formes d'oppression non humaines telles que le spécisme et l'antinaturalisme. Tu vois, le spécisme, c'est avec les espèces, et donc c'est de considérer que les animaux sont inférieurs aux hommes. Et en fait, c'est la prise de conscience du fait que le monde moderne et capitaliste a pu s'ériger et se maintenir grâce à l'écrasement des femmes et de la nature, mais aussi grâce au colonialisme, en fait, et donc à l'écrasement de toute une partie de la population.
Donc c'est un mouvement qui se voudrait intersectionnel.
Ah ouais, un des plus intersectionnels qui soit. C'est sans doute qu'il a un peu... Enfin, ça a été compliqué après, mais on...
Oui, c'est vrai qu'il a une image un peu floue. Et donc, oui. Puis de toute façon, en fait, on a vu aux dernières élections et aux élections en général que les femmes, elles sont bien plus sensibles à l'écologie que les hommes. Par exemple, donc aux dernières élections européennes, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais l'électorat d'Europe Écologie Les Verts, donc qui a fait un chiffre qui reste minime, mais qui est beaucoup pour Europe Écologie Les Verts. Et en fait, l'électorat est composé de deux fois plus de femmes que d'hommes. Et comme d'habitude, voilà, on le dit à chaque fois, mais je pense que tout est question d'éducation, parce qu'on apprend aux petites filles à être empathiques, à prendre soin des autres, de leur environnement, contrairement aux garçons, qu'on encourage à être dans la compétition, à prendre des risques, peu importe le prix. Peu importe le prix. Donc la planète, c'est des fois le prix à payer dans la décision de certains hommes, et de certaines femmes aussi, hein, parce que bien sûr, elles n'échappent pas à la règle non plus. Donc voilà, dans un monde qui est gouverné par majoritairement quand même des hommes, laisse-moi te dire que l'écologie, c'est loin d'être la priorité. Et de ce fait, l'inverse, les femmes, elles auront bien plus tendance à s'occuper... elles ont tendance à s'occuper du foyer, donc à s'occuper de toutes les questions liées à l'écologie. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles se sentent forcément davantage concernées par les questions écologiques, parce que déjà aussi, quand on se voit faire des enfants, on se dit que dans 80 ans, si ça se trouve, cette terre n'existera plus, donc qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et sans doute, les femmes, elles se questionnent beaucoup plus sur l'avenir des enfants, pas forcément les leurs, hein, des enfants en général, que les hommes donc, qui n'ont pas forcément appris à avoir...
se questionner sur l'autre.
Voilà, merci.
Et pour en revenir à l'écoféminisme, en fait, c'est pas un concept récent, enfin à notre échelle au moins, parce qu'en fait, c'est dans les années 70 qu'on nomme ce concept, et c'est la Française Françoise Daubonne à qui on attribue la naissance du terme, mais c'est un peu flou quand même.
C'est juste, en fait, je crois que c'est elle qui a posé en premier le mot écoféminisme sur un mouvement qui existait déjà, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ça apparaît à ce moment, parce que dans les années 70, on s'aperçoit que le féminisme blanc-bourgeois s'est trompé, en fait, en croyant avoir obtenu l'égalité homme-femme. Et c'est aussi, en même temps, l'essor du mouvement anti-nucléaire et donc de la prise de conscience écologique. Et donc tout ça, ça a donné l'écoféminisme.
Et ouais, et en fait, le sujet, en fait, il paraît pertinent comme ça sur le papier. En fait, en France, ça a été compliqué d'obtenir une validation de ce concept-là, et même ça n'a pas été très suivi. Sauf par contre, on rend en breton ce qui appartient en breton. En Bretagne, entre les années 70 et 80, il y a des femmes qui se sont réunies pour s'opposer à la création d'une centrale nucléaire afin de protéger en fait leurs enfants et leurs proches de tous les dangers qui sont liés au nucléaire. Et alors par contre, de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux États-Unis, ce concept il a été théorisé dès les années 60, donc 20 ans avant Françoise Daubonne. Et il est bien plus populaire, parce que, comme en Angleterre d'ailleurs. Et donc aux USA, dans les années 80, donc en 1980, il y a 2000 femmes qui se réunissent pour encercler le Pentagone et dénoncer la course au nucléaire, donc aussi bien au niveau de l'électricité que des armes nucléaires qui visent la destruction de la population. Et elles exigent l'arrêt des inventions mortelles. Et donc, en fait, en bloquant les entrées du Pentagone, elles ont été arrêtées par la police et condamnées donc à des peines qui vont de 6 mois à 3 ans de prison, il me semble. Et voilà, donc suite à cette action, il va y avoir une déclaration qui va être écrite, qui s'appelle la Déclaration d'unité des femmes et de la vie sur Terre, en anglais, évidemment, mais j'ai pas envie de me ridiculiser. Et c'est ce texte qui va participer à la fondation du mouvement écoféministe, et c'est vraiment une base qui montre... c'est un texte qui est profondément antiraciste, écologique, politique, féminisme, LGBTQ+, friendly, enfin vraiment c'est...
intersectionnel.
Ouais, c'est prenant d'humanité et de vérité.
Et à la même période en Angleterre, est fondée la communauté de femmes de Greenham Common, on passera, un camp de protestation féministe contre l'installation de missiles nucléaires sur la base de Royal Air Force, donc de l'armée. Et ce mouvement antinucléaire, en fait, il a, dans le plus grand des calmes, duré 19 ans avant d'être démantelé en 2000.
Et ça, je trouve ça fou. Qu'on nous en parle jamais. Il y a un camp, une communauté de femmes qui s'est construite, qui a dit les hommes ça dégage, et qui a quand même s'est battue pendant 20 ans ou 19 ans pour un truc, et genre personne ne connaît ça. Si tu lis pas ce bouquin là, si tu te documentes pas sur l'écoféministe, tu ne sais pas.
Et c'était un camp exclusivement féminin, effectivement, donc elles invitaient quand même les hommes pour faire la fête et tout, mais la vie au camp était en non-mixité. Et les hommes, ce qui est marrant, ce qu'elle raconte, c'est que les hommes, quand ils venaient, c'était souvent pour apporter des vivres et faire les aider et tout ça. Et en fait, ce qui se passait, tu vois, ça a souvent été le contraire dans l'histoire. C'était les femmes qui apportaient les choses.
Et puis du coup, il y avait vraiment une volonté, en fait, de s'imposer dans un domaine où, normalement, elles n'ont pas le droit à la parole, en fait. Et de dire, nous, on est là, donc on n'a pas besoin de vous, c'est bon, on vous entend déjà assez. Donc laissez-nous parler et on va voir ce qu'on a à dire aussi, tu vois.
Elles ont fait des chaînes humaines autour, enfin les photos, c'est incroyable, hein.
Ouais. Et donc à la même période, en fait, dans ces années-là, il y a vraiment eu un gros essor de l'écologie, et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression quand on pense aux années 80, moi c'est pas le mot qui me viendra à l'esprit, l'écologie. Et donc à la même période, en Inde est né le mouvement Chipko, donc qui existe encore, hein, donc ça fait presque 40 ans, ça fait même plus de 40 ans maintenant. Et donc c'est des femmes qui vont lutter contre la déforestation en s'enchaînant aux arbres. C'est une lutte qui va être inspirée d'un mouvement en plus qui date de plus de 300 ans avant, avec qui avait à sa tête en fait une femme, c'était une femme qui s'était opposée à la destruction aussi d'une forêt, et qui y avait eu beaucoup de morts il y a 300 ans. Et donc en fait les membres du mouvement Chipko, donc qui sont surtout, alors il y a des hommes avec elles. Mais c'est le leadership, c'est clairement féminin, et c'est quand même un noyau de femmes qui vont faire, et donc ils vont se mettre à enlacer des arbres en fait pour éviter qu'on les coupe, et ça va marcher en fait. Moi c'est ça que je trouve fou, c'est que c'est une action qui est totalement non violente, il n'y a pas eu une once de.
Ils appellent ça le terrorisme vert.
J'adore, c'est très joli comme expression. Et donc c'est une action non violente qui s'est tenue donc la première fois dans le village de Mandal. Je sais pas, j'espère que ça se prononce comme ça. Et donc, qui fut un succès. Et en fait, petit à petit, ça a été dans d'autres villages et d'autres endroits. Et alors, je sais pas si à chaque fois ça a marché, mais souvent, ça a été couronné de succès. Et en fait, si ces actions, elles se sont développées, c'est parce que des femmes, elles ont fait des recherches en disant, en fait, si vous arrachez les arbres, ça va abîmer l'écosystème. Et nous qui faisons de l'agriculture à côté, derrière, ça va plus marcher, en fait. Et du coup, les sols vont devenir stériles, et patati patata. Et, Et voilà, en fait, comme les femmes, comme elles étaient principales actrices de cette agriculture, parce que les hommes faisaient autre chose, je sais pas dans quoi ils travaillaient, mais apparemment, c'était les femmes vraiment qui géraient l'agriculture. Et première concernée, mais pas première concertée, quoi.
C'est ça. Et pour juste pour faire un petit point sur la non-mixité, parce que c'est pas mal d'expliquer, parce qu'on depuis tout à l'heure, on dit qu'il y avait pas d'hommes et tout. En fait, souvent, c'est surtout dans les mouvements écolos et tout, enfin, dans les mouvements militants en général, il y a pas mal de... de la part des hommes, et du coup, il y a cette volonté d'être en non-mixité pour pouvoir s'exprimer librement et être plus à l'aise, en fait.
Ouais, c'est ça, et puis de pouvoir aussi parler de vécu que les hommes peuvent nier. Enfin, je sais que dans le militantisme féminisme, c'est souvent où on a besoin de se retrouver sans hommes pour pouvoir parler d'un vécu qui, pour certains hommes, n'existe pas, en fait.
C'est ça.
Et toi, quand tu racontes quelque chose qui est douloureux, envie qu'il y ait quelqu'un qui te dise tu l'as un peu cherché,
même. Ouais, mais en même temps, puis c'est pas tout le temps non plus. Bah, en fait...
C'est pas tous les hommes.
Ouais, il y a besoin de compréhension, pas de devoir justifier ce qu'on a vécu.
Mmh.
Et donc, en fait...
Je te disais, moi, en France, ça apprend pas trop. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi.
Mais pour revenir à... Ouais, c'est ça, à ça. C'est qu'en fait, c'est parce que l'écoféminisme, il a eu une grande tendance à lier la femme à la nature en disant elle est plus liée à la nature. Et en fait, il y a eu ça a eu beaucoup de mal à passer en France parce qu'en fait, c'était au moment où les Françaises, c'était Badinter, Simone de Beauvoir, qui essayaient justement de casser le lien femme-nature parce que c'était dangereux, en fait, pour les femmes. Donc, c'est parce que ça rapporte à un soi-disant naturel féminin que... Donc, tu vois, il y avait Badinter qui était contre le concept d'instinct maternel, par exemple. Et qu'on a remis en question en disant que le genre n'était pas inné, tout ça.
Ouais, du coup, il y a un côté un peu essentialiste dans l'écoféminisme qui peut des fois être un peu compliqué à entendre. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a mis beaucoup plus de temps à s'aimer. Et en fait, personnellement, je trouve que les deux théories sont pertinentes. En fait, elles revendiquent le fait que le féminisme blanc veut hisser les femmes à la même place que les hommes, mais qu'en fait, c'est pas souhaitable. Il faudrait plus que les hommes se connectent davantage à la nature, au Caire, et plutôt que nous, on s'en détache, en fait. Mais je trouve que, tu vois, l'essentialisme, je ne suis pas essentialiste, mais je comprends dans quel sens ça peut être utile de dire ça. Et parce qu'en même temps, l'essence d'une femme, ce n'est pas être en contact avec la nature, mais le fait est que la société, souvent, nous rapproche de la nature par rapport aux hommes.
Mmh.
Et du coup, que ce soit inné ou pas, c'est quelque chose qui est finalement...
Qui existe.
Voilà, qui existe. Et donc, en fait, à part la France, on a vu que dans les pays du tiers-monde, c'est-à-dire les pays les plus pauvres, parce que c'est vraiment une expression...
je sais pas, de nous.
Blanche.
Ouais, c'est ça, blanche, ouais.
C'est ça. Et ben, donc, dans les pays les plus pauvres, et dans lesquels les plus pauvres des plus pauvres sont évidemment les femmes, on a vu les personnes qui se sont levées pour protéger la planète, en fait, étaient aussi des femmes. Donc, par exemple, Wangari Maathai, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais on va le dire que ça se dit comme ça, qui est une biologiste kényane qui a fondé le mouvement de la ceinture verte sur le continent africain. Donc, c'est un mouvement quand même très important. Je crois que c'est ça. Si c'était c'est pour que le désert arrête d'avancer. Tu sais, avec le vent et tout, ça a fait bouger le... Et du coup, ils ont fait une ceinture verte, c'est-à-dire ils ont planté des arbres travers du continent africain pour
bloquer l'avancée du Sahara.
Ouais.
Ok.
Je suis pas très... Voilà. Et dans les années 90, il y a eu beaucoup de théorisation du mouvement et ça entame les cristallisations de plusieurs controverses. Parce qu'en fait, comme les écoféministes n'avaient pas de leader, il n'y a pas eu d'idée prédominante, en fait, parce qu'elles ne voulaient pas de dogme. Et c'est compliqué, du coup, de tenir un mouvement qui n'est pas lié par des idées structurées communes, d'où le fait que le mouvement soit un peu perdu, quoi.
Et c'est vrai qu'en faisant des recherches, en m'enseignant un peu sur ce sujet-là, t'as l'impression que ça part dans tous les sens, et t'as du mal à avoir une vision claire et précise de ce qu'est l'écoféminisme. Enfin, vraiment, j'ai été sur plein de trucs et tout pour m'enseigner, et tu vas même sur des comptes Instagram tenus par des écoféministes, et d'une page à l'autre, tu vois des trucs qui sont totalement différents. Donc ça, c'est dans tous les courants de pensée, évidemment, mais je trouve que vraiment, le truc est un peu flou. Et j'ai du mal à situer un peu le mouvement et ce qu'il est vraiment... Enfin voilà, les idées qui actuellement l'animent.
Mais c'est ça, et je pense que c'est parce que justement c'est pluriel et que c'est très différent et tout, et c'est différent des autres militantismes, j'ai l'impression, pour ça. Et du coup, ça a perdu de la crédibilité parce que les universitaires... Enfin, tu vois, les universitaires, elles ont commencé à le nommer autrement, en se contorsionnant au plus possible pour ne pas être affiliées à l'écoféminisme, qui était devenu ringard, en fait, parce qu'elles avaient plus de crédibilité si elles n'avaient pas d'idées fortes à avancer en commun, quoi. Et du coup, c'est les femmes des pays pauvres, surtout, qui l'ont ravivé de par leurs actions. Et je dis bien par leurs actions, parce que malgré qu'elles agissent totalement en écoféministes, elles n'ont jamais revendiqué ce titre, en fait. Et ça revient... en fait, c'est nous qui avons calqué en disant « Ah, mais en fait, c'est écoféministe qu'elles ont fait, mais elles ne l'ont pas forcément revendiqué, elles. » Et en Occident, ça revient en 2015, enfin, à partir de 2015, en tout cas, date... Enfin, c'est la, de là que date l'autrice de « Être écoféministe, théorie et pratique ». Et du coup, elle parle de Greta Thunberg. Et on voit aussi dans les manifs pour le climat, on voit pas mal de pancartes crossover féministe climat. Enfin, tu vois, genre sauvons les espaces humides, machette, le climat, même combat. Enfin, c'est des trucs. En plus, souvent, c'est cool. Et il y a aussi les sorcières, la spiritualité, le rapport à la nature qui devient un peu à la mode en fait finalement. Hein, mais en disant oui, non mais moi je me, enfin les bobos et tout, tu vois, de se soigner avec les plantes et tout ça. Enfin, c'est un truc qui revient pas mal maintenant. Il y a eu aussi Les Effondrés, qui est un collectif écoféministe fondé en 2012 par Fatima et Zahara Benomar. Et donc, elles ont notamment envahi des magasins de Benetton après l'effondrement d'une usine textile au Bangladesh qui a tué plus de 1000 personnes. Enfin, je pense qu'on s'en rappelle tous et toutes de cet événement. Et donc, elles ont protesté dans les magasins en disant « la mode tue », parce qu'en fait, elle a tué les femmes de Rana Plaza, donc au Bangladesh. Comme elle tue les femmes anorexiques, comme elle tue l'écosystème par sa pollution. Et donc ce collectif, en fait, c'est un très bon exemple de l'écoféminisme actuel qui montre les interconnexions entre les luttes anticapitalistes et féministes en se battant contre les injustices aussi bien sociales, donc, parce que ces femmes sont mortes parce qu'elles étaient exploitées pour le bonheur des Occidentaux qu'environnementales.
Et je pense qu'encore une fois, si les femmes se soucient de cette lutte plus que les hommes, c'est qu'elles sont directement concernées par le changement climatique. Enfin, bien sûr, tout le monde est directement concerné par le changement climatique. Moi, ça me rend folle de voir des gens encore qui me disent « Mais non, tranquille, ça va bien se passer et tout. » Je suis « Ouais, d'accord. »
Non.
On verra. voilà. Mais en fait, c'est que c'est les femmes qui vont payer le prix le plus cher de l'effondrement s'il a lieu, quoi. Enfin, tu vois, d'après l'ONU, lors d'une catastrophe naturelle, les femmes, elles ont 14 fois plus de chances d'y rester qu'un homme. Et c'est dû à leur statut, hein, parce que voilà, dans le monde, elles représentent 70% des personnes qui subsistent avec moins d'un dollar par jour pour vivre. Donc 70%, c'est quand même un chiffre, moi, qui me... Genre, quand je l'ai vu, j'ai cherché la source parce que ça me paraissait énorme, et en fait, ouais, vraiment, c'est ça. Et voilà, et beaucoup de femmes vivent de l'agriculture. Donc même si normalement on peut se dire l'agriculture trop bien, tu vois, des femmes qui vivent de l'agriculture au moment de l'effondrement, ça va être top parce qu'on va revenir à une alimentation peut-être plus locale, donc elles auront déjà les clés pour subsister. Mais en fait, c'est que elles sont pas propriétaires des terres qu'elles cultivent. Et donc en fait, si effondrement il y a, elles auront plus rien pour vivre, et elles seront sans doute réexploitées par des gens riches pour dire en fait ouais d'accord, c'est bien, t'as les clés, donne-moi à manger maintenant. Et voilà. Et après, moi, il y a vraiment un truc que je veux nuancer, c'est que l'écologie, enfin l'écoféminisme et tout, c'est trop bien, tu vois, mais moi le féminisme, ça prend déjà beaucoup de place dans ma tête. L'écologie, ça peut prendre beaucoup de place dans la tête, moi j'essaye vraiment, c'est compliqué, et j'ai pas envie qu'on se rajoute une charge mentale et émotionnelle supplémentaire. Parce que, en fait, il y a une étude américaine qui date de 2016, donc je pense que maintenant le chiffre est encore plus élevé, qui montre que les activités du foyer liées à l'écologie sont vues par les hommes comme efféminées. Hein, voilà. Et après, on nous demande de leur faire confiance pour la transition énergétique et l'écologie, hein, voilà. Moi, quand on me dit ça, en fait, j'ai pas envie de leur faire confiance, mais bref. Et en fait... Ça explique pourquoi l'association des deux luttes, donc féminisme et écologie, sont indissociables, hein, finalement. Mais en même temps, j'ai envie qu'on évite de surcharger encore plus nos têtes qui sont déjà pleines de choses de la vie. Et donc, en fait, pour moi, la révolution écologique et féministe, elle doit passer aussi par des prises de décision de femmes, pour les femmes, en fait. Et vraiment, si on veut éviter d'être encore relégué au foyer et à dire « moi, je fais ma lessive maison et tout ». Et j'admire les gens qui font leur lessive maison.
Merci.
Mais tu fais ta lessive maison. moi, je n'ai pas de place dans ma tête pour anticiper ce genre de choses. Déjà, je n'ai pas de place dans ma tête pour penser à aller acheter de la lessive. Mais voilà, genre vraiment, je bien sûr que les gens qui font des trucs chez eux et qui ont plein d'alternatives zéro déchet, trop bien, mais c'est pas ça qui va nous sauver concrètement. Hein,
il faut un changement profond et global du système.
Et en fait, moi, je veux voir des...
Ça sauve notre conscience.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et tant mieux. Mais tu vois, genre, c'est une charge morale supplémentaire parce que le jour où tu le fais pas, est-ce que tu te dis pas que t'es une merde parce que tu participes à l'effondrement de la planète parce que t'as été à Intermarché acheter la lessive? Enfin, tu vois.
Tous les jours.
J'exagère.
Tous les jours, j'exagère. Passe la porte de ma chambre, mais je me dis putain.
Je vois quand j'achète un truc, je fais des drives et que j'achète des courgettes dans des. Tu sais, des courgettes bio en plus, je m'applique, tu vois, françaises et tout, et qu'elles arrivent.
Au mois de janvier?
Non.
Ah non,
non.
Quand même.
Respecte-moi, s'il te plaît. Mais qu'elles arrivent, tu vois, genre au mois de juillet, voilà. Pas de bad buzz. Mais j'achète des courgettes, c'est bio et tout, et je m'applique, et elles arrivent emballées dans des sachets plastiques. C'est la purée, genre, comment faire?
Comment faire? Mais comment faire pour acheter mes courgettes? Mais
il va falloir que je me déplace, vraiment.
C'est que j'aille au marché.
Oh non, parle pas de malheur. Faut se lever pour aller au marché. Et donc, en fait, moi, je veux voir des femmes qui allient ces deux luttes pour garantir, en fait, des décisions safe au plus haut niveau de l'État et du monde, tu vois. Genre, vraiment, parce que j'ai regardé Handmaid's Tale aussi, et j'ai vu l'effondrement quand c'était géré par des hommes, ce que ça pouvait créer, tu vois.
Bah, du coup, j'ai dit non.
Bah, voilà, j'ai fait flemme, hein, flemme. Franchement, non.
C'est clair.
Enfin, voilà, c'était
moi. Je pense qu'il faut arriver à dealer entre les deux, en mode, c'est mieux pour moi que je me concentre là-dessus ou pas, et voilà, on fait ce qu'on peut, hein. Y a pas de souci, mais...
Et pour les hommes qui pensent que c'est efféminé, c'est très sexy un homme qui fait sa lessive maison, ok? C'est important de le dire, parce qu'il faut arrêter de penser ça.
On veut des hommes qui vont acheter en vrac et...
Dans leur petit sachet en papier et qui se baladent avec leur panier en osier. Moi, j'adore.
J'adore les bobos. Et aussi, d'ailleurs, en plus, au-delà du fait que l'écologie, c'est perçu comme efféminé et tout, l'écologie, c'est aussi... souvent quelque chose qui est réservé. Enfin, encore une fois, tu parles de place dans ta tête, mais c'est pareil pour des personnes qui ont des trucs à gérer bien plus importants que, enfin, dans leur vie, tu vois.
Mais moi, ça me fait toujours rire quand on fait des leçons d'écologie dans des quartiers. Je sais que ça se fait dans les quartiers nord, tu vois. Mmh. Et avec des gens qui ont déjà pas les moyens de s'acheter à manger, qu'est-ce qu'ils s'en balancent du tri des déchets, tu vois. Genre, c'est pas la première priorité.
Voilà, c'est ça. C'est quand même quelque chose qui est réservé à une classe. Supérieure, et c'est pour ça que l'écoféminisme c'est intéressant, parce que justement ça vient pas des classes supérieures, et qu'en fait c'est vraiment des choses qui ont été mises en action par les pays les moins riches,
oui,
en PIB.
Oui, c'est vrai. Oui, non, mais oui, de toute façon, je pense qu'il y a un véritable truc à faire. Après, moi, je me méfie toujours, parce que vraiment, la dimension essentialiste, moi, elle me gêne, et c'est vraiment un reproche qu'on peut faire. Parce que, bien sûr, elle n'est pas exacerbée chez tous les gens qui sont écoféministes, mais il y a quand même une partie de l'écoféminisme qui est un petit peu, moi, qui me trigger un petit peu à ce niveau-là. Mais à nous de développer aussi un écoféminisme qui nous plaît et qui est...
Oui, parce qu'en plus, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que comme c'est pas hyper cristallisé et que... ça reste quand même assez large, et qu'ils n'ont pas réussi à être très...
Il n'y a pas de consensus.
Voilà, c'est ça. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Et puis après, ça peut être aussi une étiquette d'écoféminisme. Tu vois, tu peux le dire parce que tu es écolo et féministe, point. Enfin,
oui, voilà, c'est ça. C'est que la contraction, elle est facile à partir du moment où tu agis aussi dans les deux causes. Voilà.
Ouais.
Mais le rapport est intéressant, en tout cas. Et ça m'a bien plu d'essayer de creuser un peu plus pour mieux comprendre ce truc-là qui était un peu obscur dans ma tête.
Ouais, bah moi aussi.
Voilà. Bon, bah on se retrouve bientôt.
Ouais.
Salut.
Salut.